Il a dit avant l'émission, les gars, c'est un truc chill. Hein. Putain,
elle est c'est un truc chill, le mec, il fait des QC, à mon frère, c'est pas grave. Sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time avec, encore une fois, un programme absolument dingue. On aura nos pronos pour le Golden Boot qui sera donné ce soir au moment où on tourne ce mardi. On aura également un petit débrief sur le mercato et puis évidemment une revue complète de cette nouvelle journée de Jupiler Pro League. Mais juste avant, bonjour mon cher Xavier, comment ça va?
Ça va pas mal et toi?
Tout en beauté, comme d'habitude.
On essaye, hein. On essaye.
Tout va bien. El Professeur qui, encore une fois, eh bien, a véritablement bien, bien fonctionné avec son Xavier Vous. Merci à vous, encore une fois, d'être présent. C'est un super épisode que nous a présenté. Puis on a appris beaucoup de choses. Enfin, à titre personnel, il y a plein de choses que je savais pas. Donc, merci beaucoup, mon Xav. Bon, Thomas, comment ça va?
Très bien, j'ai failli mourir avant l'émission, mais
il a failli casser une caméra, surtout, ça c'est exceptionnel, merci pour le budget, mais il est toujours bien là, et puis à ses côtés, évidemment, notre QTN SLN International, ready, steady, go.
Yes, donc, c'est parti.
On va le faire. Allez, on commence tout de suite avec, on l'a dit, l'événement du soir au moment où nous tournons cette émission. C'est évidemment le Golden Boot, le soulier d'or. Qui sera le soulier d'or cette année? Il y a trois gros favoris, Hans Van Aken, Cameron Puertas ou Kevin Denke. Toi, Xavier, tu vas le donner à qui?
Non, ça sera Van Aken dans le sens où c'est tous les trophées où ça se joue sur deux demi-saisons. C'est toujours problématique. Si le joueur y reste, ben, 90% de chances qu'il le gagne. Et les deux autres, ils sont partis, donc pour moi, ce sera Van Aken, encore une fois.
Ce sera Van Aken, bah, c'est vrai que ça semble être le favori évident. Mon cher Quentin, tu rejoins là-dessus, Xavier?
Oui, je rejoins aussi, surtout Xavier, sur le fait que pour moi, ça ne doit pas être sur une année civile, mais sur une saison complète, parce que ça n'a aucun sens.
Mmh. Ok, c'est intéressant. Tu peux étayer un peu, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait en sorte que pour toi, ça ne soit pas logique?
Parce que pour moi, une saison, c'est différent en fait. Tu joues tout sur une saison. Donc, imaginons par exemple le Cercle de Bruges, qui a connu une très belle saison la saison dernière, qui a une saison un peu moins bonne, ça change beaucoup de choses, notamment au niveau du mercato, parce que les joueurs partent souvent plus à la fin de saison qu'au mercato hivernal. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'indices qui donnent, pour moi, je trouve, on doit récompenser quelqu'un sur sa saison et pas sur son année civile.
Mais je vais citer, par exemple, mon ami Peter-Yann Kalkoun du Newsblad qui a donné ses votes. Il y a quand même deux parties. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la première partie des votes et puis la deuxième partie dédiée à la première partie de saison 2025-2026. Donc, il y a quand même une forme de justesse par rapport à ça. C'est pas mieux de trouver une forme d'équilibre grâce à ça? Est-ce que, justement, c'est pas la meilleure formule?
Non, pour moi, c'est la meilleure formule. C'est comme nous, on fait ici dans l'émission avec le Football Time Awards. C'est ce qui, pour moi, est la meilleure des choses, ce qui est la chose la plus cohérente. Par exemple, là, il y en a beaucoup qui mettent Puertas. Puertas a été incroyable, mais Puertas aurait peut-être pu l'avoir si on avait fait juste sur la saison dernière. Ou, par exemple, à Denki. Je pense qu'alors qu'ici, c'est un Van Aken, pas sûr à 100% que Van Aken l'aurait eu si on avait fait sur la saison dernière.
Alors, on a parlé de Van Aken, de Puertas et de Denke, mais Thomas, il a un autre nom qu'il aimerait ou qu'il aurait souhaité voir gagner ce soulier d'or.
Bah, pour moi, celui qui mérite ce trophée, c'est Maxime de Kuyper pour sa progression, pour ses performances, pour le fait aussi d'être un titulaire pratiquement indiscutable en équipe nationale. Mais malheureusement, un arrière-gauche ne gagnera jamais un soulier d'or. Mais j'aimerais ajouter quelque chose à ce que, aussi bien Xavier que Quentin ont dit, je suis complètement d'accord avec eux, parce qu'en fait, tu juges sur deux saisons et pas une saison. Et c'est là où le problème se situe, c'est qu'en fait, tu récompenses quelqu'un sur une demi-saison et non pas sur une saison complète. Et c'est ça où c'est ça qui est problématique, parce qu'un joueur qui fait une très bonne saison, il pourra pas gagner le soulier d'or parce qu'il va potentiellement partir dans le mercato qui va suivre. Un joueur comme Van Aken peut parfaitement le gagner parce qu'on sait qu'il va rester toute sa vie au club des Bruges. Donc il est beaucoup plus avantagé qu'un joueur qui fait une excellente saison et qui décroche un transfert par la suite.
Oui, en attendant, on l'a bien compris, hein, ce sera Hans Van Aken qui sera vainqueur de ce soulier d'or cette année. Il y a véritablement une unanimité de tous les votants, de ce que j'ai pu récolter, notamment comme information. Ça devrait bel et bien être le Brugeois. On va passer à votre débrief maintenant, messieurs, du mercato. Peut-être que vous avez suivi évidemment cette période qui était quand même assez dense au début et à la fin, mais pas vraiment au milieu. Alors moi, je m'interroge aujourd'hui sur quel est le club qui a vraiment fait le meilleur mercato, Xavier.
Moi, je pense, pour sortir un petit peu des clubs habituels, je pense que Saint-Ouen a fait un super mercato. Pour essayer de se sauver, je pense qu'ils ont fait un super mercato vu les arrivées offensives qu'ils ont ramenées, que ce soit même Kelze, La Poussin et même Hickelrode qu'ils ont ramené défensivement. Ça peut être sympathique, donc je pense qu'ils ont fait un super mercato, contrairement à d'autres clubs qui se sont pas forcément renforcés.
Oui, et puis tout à l'heure, enfin la dernière fois qu'on a eu l'émission avec William Dutoit, je parlais de manque de lisibilité. Parfois, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en coulisses. À la base, André Pinto voulait un défenseur central. Je ne pense pas qu'il y ait une officialisation liée à un défenseur central dans les dernières heures du mercato. Et donc, ils ont complètement renversé les plans et également renversé les budgets, parce qu'on rappelle, pour faire venir la Poussin, ça leur a coûté par an 900 000 euros brut, c'est exactement ce que proposait le Royal Antwerp Football Club. C'est ce qui s'appelle mettre les moyens pour se sauver, Thomas.
Bah exactement, donc je confirme ce que Xavier a dit. Pour moi, c'est Saint-Trond qui a fait le meilleur mercato. Ils étaient un peu dans l'obligation de le faire aussi parce qu'ils sont dans une position assez délicate dans notre championnat. Mais pouvoir ramener un joueur comme Lapoussin dans un club en bas de classement, je trouve ça quand même exceptionnel. Donc juste pour ça, c'est vraiment exceptionnel et je trouve qu'il mérite ce petit trophée, on va dire.
On y reviendra sur Saint-Trond. C'est un des sujets du d'accord, pas d'accord. Du côté de Quentin, j'allais dire du QTNSLN international. Est-ce qu'on a envie de mettre en avant le travail de Fergal Harkin et sa cellule de scouting?
Moi, c'était le standard, parce qu'avec les moyens du bord, ils n'auraient pas su payer un salaire comme ça pour Lapoussin. Déjà, le standard, et ils ont réussi un mercato, je trouve incroyable. Ils sont renforcés dans toutes les lignes, que ce soit au gardien, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque. Ils ont enfin un attaquant rapide. J'attends toujours de voir Untonji pour suppléer un Ayensa et un Zekiri devant. Ils ont bien vendu Price, qui pour moi n'était pas bon dans le championnat belge, avec un Lazaret qui peut apporter vraiment un plus. Je pense que j'aurais quand même pris encore un autre 8 pour à la place de Kouavita, pour faire un Lazaret avec un autre 8 et avec Karamoko, qui aussi, peut-être du coup, voir un O'Neill peut-être plus à la place de 8, parce que Karamoko, je trouve, c'est une excellente recrue. Division 3 française, il faut aller le chercher. Il m'impressionne bien dans ses matchs. Et défensivement, ben, on a vu le Zalaï, à voir ce que ça va donner, mais ça peut être un backup à Di Lorenz. Et on sait que le standard n'est pas 100% confiant sur Epolo. Et le dernier jour du mercato, ils ont recruté un gardien. Et quel gardien? Un gardien qui a une valeur marchande de 14 millions d'euros, formé à City.
Gavin Bazounou.
Exactement. Et dont j'ai pas mal de gens de ma communauté qui disent, il est vraiment incroyable. C'est vraiment très, 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 très fort. Donc, ça montre un peu les ambitions du standard.
Moi, ce qui me pose un peu problème du côté du standard, c'est que certes, ils ont fait un bon mercato, mais la majorité des transferts, aussi bien en été qu'en hiver, c'est des prêts. Donc, c'est des joueurs qui ne vont pas t'appartenir. Les joueurs, par exemple, que Saint-Trond a fait ramener, Lapoussin va leur appartenir, Lamkelze leur appartient, Yuklerud leur appartient. Ils ont été chercher un attaquant en deuxième division japonaise, ça leur appartient
très
aussi.
Bon aussi celui-là.
Donc, je trouve que la différence se situe là, même si le standard a fait un très bon mercato. Ce sont des joueurs qui vont être là pendant les six prochains mois et c'est terminé.
C'est logique parce que le statut du club, le club est à vendre. Donc jamais 777 va taper 3 millions, 4 millions ou autre alors qu'ils vont vendre le club. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Et par contre pour Saint-Trond, moi je mets un petit bémol et tu l'as souligné, c'est le poste de défenseur central. T'as Taniguchi qui s'est blessé au tendon d'Achille, qui a une longue blessure. T'as Van Elden qui pour le moment est blessé. Je pense pas que Janssen, Godot et Belaïd, ça soit assez suffisant. Donc j'ai un peu peur pour Saint-Trond, qui a un gros déséquilibre entre les forces offensives et les forces défensives. Je suis d'accord, ils ont fait un bon mercato, mais je trouve que un bon défenseur central aurait vraiment été la petite cerise sur le gâteau pour le mercato de Saint-Trond.
Bah, a priori, ils ont 5 défenseurs centraux et je trouve franchement la prestation des 3 défenseurs centraux face à l'Union, elle était excellente. Et le fait d'avoir un Taniguchi blessé pour le moment, mais il va revenir. Van Elden, c'est aussi un très bon défenseur, on le connaît, il va revenir aussi. Je pense que c'était pas nécessaire d'aller chercher un autre défenseur central.
Et puis je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis. Quelque part, ça ne me paraît pas illogique d'avoir un standard qui ne fait que des prêts parce que l'avenir Fergal Harkin.
Oui, c'est ça.
Est aujourd'hui en question. Fergal Harkin est en train de faire tout doucement son casier au standard. Sa famille est déjà retournée on l'a annoncé depuis longtemps, mais en Angleterre. Donc lui, évidemment, ne se projette plus dans un avenir avec le standard. Donc les idées que lui amène, c'est des idées pour terminer en beauté et puis espérer évidemment de permettre au standard de retrouver les play-off 1 parce que je pense que le standard n'a jamais été en play-off 1 sous Fergal Harkin. Et je pense qu'avant de partir, il aimerait vivre aussi ses play-off 1. Donc il a donné toute son énergie. Et pour revenir sur l'histoire de Gavin Bazounou, simplement, voilà pourquoi Samuel Bamba, ça ne s'est pas fait. On l'a expliqué sur X, mais on va aussi expliquer dans cette émission. Bah, ECAP, à la dernière minute, n'a pas autorisé tout simplement le budget pour pouvoir le faire. Ils estimaient qu'il y a eu un départ, il y en a même eu 2, et donc il n'y a pas pu y avoir, suite au départ de Badamossi et de Djukanovic, eh bien tout simplement 2 arrivées. Ils ont bloqué le budget en quelque part négociant avec la direction du standard en disant « vous voulez un gros gardien, on va vous offrir la possibilité de le faire, mais derrière vous pourrez pas faire un deuxième joueur, même si c'est un prêt en termes de salaire, ce ne sera absolument plus possible ». Voilà, comme ça moi vous savez tous les détails. On va passer maintenant justement au joueur, au type de joueur qui selon vous est vraiment le meilleur transfert hivernal, qui pourrait être la surprise et vraiment se mettre en avant. Xavier, tu as pensé à qui?
Le meilleur, moi, je pense que ce sera Van Zer du côté de la Gantoise, parce que je pense qu'ils avaient besoin d'un attaquant et ils connaissent bien le championnat et c'est un attaquant qui m'a toujours bien plu quand il était à l'Union. Et la surprise, ben, quand on en a un peu parlé, c'est Karamoko du Standard, tout simplement, parce que c'est un joueur qui n'était pas toujours titulaire en D3, en National, en France. Quand il a été transféré, tout le monde se disait, ouais, qu'est-ce qu'on ramène en cours Standard à un joueur de D3 qui n'est pas titulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Et au final, il preste, il est titulaire. Et il a clairement sa place et je trouve que ben il a montré qu'il avait le niveau pour ce championnat belge et pour cette équipe.
C'est une trouvaille, hein, Scaramoco Thomas, ouais, c'est un joueur sur lequel il faudra compter.
Bon, il fait du bon taf, mais je suis pas d'accord avec Xavier par rapport à Van Zer parce que pour moi le système actuel ne lui convient pas. Si on avait été recruté un deuxième attaquant, on aurait pu, mais Van Zer c'est pas l'attaquant phare. Enfin, il doit pas être l'attaquant phare d'une équipe parce qu'il va pas briller. Ça peut pas être le meilleur attaquant d'une équipe. Ça doit être l'attaquant juste en dessous du meilleur attaquant. S'il est pas épaulé par un grand attaquant, par un attaquant plus fort que lui, ça n'ira pas. Il pourra pas avoir toute cette responsabilité pour lui tout seul. Ça ne marchera pas du côté de la Gantoise pour moi.
Ouais, justement, la Gantoise qui est un peu déçue, hein, sur cette fin de mercato parce qu'on attendait quand même un vrai numéro 9 pivot. On sait que c'était, on l'avait expliqué, un enjeu du départ également de Wouter Vranken, un des conflits qu'il y avait eu avec la direction. Il n'est pas arrivé. On a à la place de ça fait venir un jeune ivoirien de 19 ans dont personne ne connaissait le nom, qui est arrivé comme ça rapidement, mais qui est un joueur qui n'est pas véritablement ce qu'on appelle un target striker. Donc c'est quand même assez étonnant de ne pas avoir vu au final quelqu'un qu'on pourrait réellement associer à Dante Van Zer. C'est peut-être une question de finance aussi, hein, Thomas.
Bah après ils ont fait s'ils arrivent à aller chercher Van Zer, c'est que tu arrives à aller chercher un autre attaquant
parce peut-être mis tout le budget sur Van Zer.
Bah on avait parlé d'un certain Kroos de Ludogorets,
ouais.
Ils étaient quand même prêts à mettre un certain budget après avoir réalisé le transfert de Van Zer, donc c'est qu'il y avait une possibilité financière pour le faire. Donc s'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y avait peut-être d'autres raisons, je sais pas. Ils ont pas été dans la précipitation, ils ont peut-être pas voulu forcer non plus.
Ouais.
Je sais pas quelle est la raison, mais à ce jour, je trouve que il manque cet attaquant pour épauler Van Zer.
Mais elle est essentiellement pécuniaire parce qu'en réalité, il y avait des départs qui devaient être faits du côté de la Gantoise, notamment celui de Peter Gerkens et de Nuria Fortuna. En tout cas, on a tenté de les faire sortir en dernière minute. Et donc là, il y aurait pu peut-être avoir un mouvement. Fortuna est parti,
ouais.
Effectivement. Mais effectivement, il y a eu des grosses difficultés liées au fait de remplacer les joueurs. Et puis finalement, le choix également de Sam Barrault au niveau financier a fait la différence. Toi, du côté de tes idées,
ouais.
Qui est le meilleur transfert hivernal et quelle est la surprise?
Alors le meilleur transfert hivernal, c'est La Poussin,
ouais.
Parce que pour moi, je pense, il peut clairement aider Saint-Tron. Ça va faire une belle équipe, hein, avec Patrice sur le côté droit, La Poussin sur le côté gauche. Je pense que ça va être vraiment un piston, avoir sa forme, avoir sa détermination, mais je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Et un autre transfert, je pense, qui va le mettre un peu plus en lumière, c'est Verlinden du Berscott à l'OHL. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est quand même était dans le top 3 des joueurs en jouant au Berscott qui tire le plus au goal. Donc il tente beaucoup, il peut être bien entouré avec des joueurs comme Mazis ou autres, des joueurs qui ont du ballon. Donc je pense que ça peut être un peu plus intéressant que de le voir au Berscott.
Pour moi, le meilleur joueur, c'est comme le meilleur transfert plutôt, c'est comme Quentin, c'est La Poussin, parce que surtout je l'ai déjà dit, le fait que Saint-Tron puisse se permettre d'aller chercher un joueur comme ça, pour moi c'est exceptionnel. C'est quand même une équipe qui est en bas de classement, faut le souligner, et La Poussin, c'est même un peu bizarre je trouve pour lui parce qu'il mérite quand même mieux.
Il revendiquait lui aussi pendant des années.
Ouais, c'est surtout ça, tu vois. Donc j'ai trouvé ça, c'est quand même assez surprenant. Bon, après je pense que Phil Semajou a joué un très grand rôle dans ce transfert. Et la surprise pour moi, ce sera Marc Giger. Donc c'est aussi côté gauche, un piston gauche.
Ah, ça me fait plaisir que tu parles de ce joueur.
C'est aussi un piston gauche qui va donc qui a donc remplacé La Poussin du côté de l'Union. J'ai pu entendu dire que il était encore meilleur techniquement que un certain Kalaili, alors qu'il est exceptionnel techniquement, Kalaili. Donc s'il est meilleur que Kalaili, ça peut quand même être assez impressionnant et je trouve que ses stats pour son âge étaient quand même assez bluffantes. Donc j'ai hâte de voir cette pépite.
Alors justement, Thomas, on va passer à ton happening tout de suite et puis après derrière on ira sur le d'accord, pas d'accord. On joue à quoi aujourd'hui?
Bah on va jouer au casino. non, ben je dis casino parce que
la roulette en fait, russe.
Oui voilà, on va plus aller dans cette direction là. Donc la question est qui va se qualifier pour les Playoff 1 et qui va être dans les 4 derniers, donc dans les playdowns de cette saison. Donc on va commencer avec les Playoff 1. J'attends de toi une équipe.
Eh ben moi je te réponds la Gantoise.
Le Standard.
Pour moi ce sera Charleroi.
Le Standard.
Ok, bon bah.
Charleroi, on en reparlera, mais c'est effectivement assez intéressant pour le courant de cette émission, il lance la question.
C'est l'underdog, l'outsider qui va pouvoir se qualifier. Et pour les playdowns, donc on est déjà quasi sûr que Courtrai et le Berscott seront dedans. Donc il reste 2 places, je t'écoute.
Alors, je vais donner Dender et je vais donner Westerlo.
Dender et Malines.
Pour moi, ce sera également Dender et le Cercle de Bruges.
Et pour moi, ce sera Malines et Westerlo.
Ok.
Ah, c'est assez varié, ouais. Ça a été palpitant et intéressant à regarder.
Allez, on passe tout de suite au d'accord, pas d'accord, messieurs. Vos pancartes, elles sont-elles prêtes? Oui, elles le sont. Tout doucement, on commence avec le premier, justement, sujet. Thomas venait d'en parler. La victoire 5-0 du Sporting Charleroi contre Dender est un déclic. Le RCSC est de retour dans la course au Champions Playoff. Oui ou non, Xavier? Non, Xavier n'est pas d'accord.
Donc ta question, c'est?
J'ai dit, c'est pas une question, c'est une phrase. Ouais. Je répète, le RCSC est de retour dans la course au Champions Playoff. Il n'est pas d'accord.
Je suis pas d'accord.
Et donc on a deux pas d'accord et pas d'accord. On a une triplette de pas d'accord aujourd'hui. C'est exceptionnel. C'est fantastique. On va commencer avec Xavier. Pourquoi n'es-tu pas d'accord?
Bah dans le sens où le problème c'est que c'est dur de jouer du côté de Charleroi parce que toutes les, enfin chaque fois qu'ils vont gagner, on va dire la même chose. Ah ils sont de retour, ça va aller. Et puis la semaine d'après ils vont faire un match tout pourri entre guillemets. Donc j'ose espérer pour eux qu'ils vont enchaîner, mais c'est comme il y a quelques semaines, ils avaient fait un super match contre Genk et malheureusement ils s'inclinent. Et le match d'après, ils jouent hyper mal. Donc le problème c'est que Charleroi c'est une fois c'est bien, le lendemain c'est pas top. Donc c'est compliqué d'enchaîner.
Ouais, tu
s'ils arrivent à faire 2-3 matchs bons, alors là je pourrais dire ok. Ouais. Peut-être qu'ils pourront aller chercher une place dans le top 6.
L'irrégularité de Charleroi, Thomas.
Ouais, c'est vrai que la Gantoise et le Standard, c'est assez bon. C'est vrai que c'est très fort en ce moment. Bref.
C'est du second degré hein, pour ceux qui sont en podcast, évidemment.
Non, moi j'ai mis pas d'accord parce que pour moi, je suis pas d'accord dans le sens où que Charleroi, ça fait déjà quelques semaines, ils sont là. Ils sont là dans le classement. Ils sont pas très loin des playoffs 1, donc pour moi, ils sont pas de retour. Ils sont là. Et ils y seront pour moi. Pour moi, je pense que ce sera l'équipe qui va se qualifier dans ces Champions Playoffs. Surtout tenant compte du calendrier qu'il va avoir. Donc on a encore 6 matchs, donc c'est 18 points à prendre. Il y a 4 matchs à domicile. On sait que Charleroi a pris 21 de ses 32 points à domicile, c'est énorme. Et ils font un match à l'extérieur au Berscott qui est déjà quasiment condamné. Donc c'est pratiquement 3 points quasiment, j'ai dit, assurés. Donc pour moi, ils jouent pas contre des grosses équipes non plus, contrairement à la Gantoise et le Standard. Donc pour moi, je pense que le calendrier est le plus favorable pour cette équipe de Charleroi. Et pour moi, ce sera donc l'équipe qui va se qualifier.
Mais t'es pas d'accord avec la phrase, mais c'est que tu dis quand même l'inverse de Xavier, là. Toi, c'est-à-dire penses qu'ils vont aller en Champions Playoff.
Oui, mais j'étais pas d'accord avec ta phrase où tu dis, ils sont de retour. Pour moi, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont là. Okay. Pour les Champions Playoff. Donc, pour moi, je suis pas d'accord avec la phrase, mais je suis d'accord avec le fait qu'ils seront dans les Champions Playoff. Ça, c'est sûr.
Quel homme de nuance.
Ouais. Hein. Il y a un truc qu'on souligne pas, hein, qu'il a pas souligné, c'est l'ambiance. Je trouve que l'ambiance, elle est horrible à Charleroi. Que ça soit entre les supporters et la direction, tu gagnes 5-0, t'es encore en train de crier après la démission de ton président. Alors que tu gagnes 5-0 à domicile. Donc tu fais même pas la fête, tu célèbres même pas, tu fais ça. Y a quoi? Tu mènes 3-0, t'as un penalty, y a deux joueurs qui se prennent la tête pour tirer un penalty. Après encore, ils discutent. Tu vois qu'ils font des mimiques, ils sont vraiment pas contents. Ouah, l'ambiance dans le vestiaire, c'est pas le top, hein, je trouve, à Charleroi. Ouais. Et donc ça, je prouve que dans, justement, ce qui fait que tu peux avoir, aller en playoff 1, c'est cette ambiance, cette énergie, cette grinta, cet esprit d'équipe, cette cohésion. Et désolé, mais je trouve qu'à Charleroi, c'est nulle part. C'est pas avec les supporters, c'est pas avec les joueurs, c'est pas avec la direction. Il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Et je pense que dans les moments importants, ça peut jouer. Parce que quand j'ai vu Heymans et Stulic se prendre la tête à ce point-là pour tirer un penalty, et après le goal, Stulic ne va pas célébrer avec Heymans. Stulic a l'air d'avoir quand même un sacré caractère. Heymans, on voit qu'ils discutent ensemble en remontant vers le terrain. Heymans, il dit un truc, il fait une grimace, tu vois qu'il est, il est vraiment pas content. Et je trouve que quand tu t'entends pas avec tes coéquipiers, c'est pas bon.
Ouais, ouais,
c'est
vrai que ce genre de circonstances, ça peut arriver partout. Quand tu gagnes
5-0. Mais là, 5-0, c'est à Charleroi qui a le cas. Ouais, si tu gagnes 3-0, je suis désolé, tu peux pas avoir ça.
Oui, mais tu gagnes 5-0 au final, donc je pense qu'à un moment
donné. Ouais, tu gagnes 5-0 parce que t'as 11 contre 9 aussi.
Mais oui, mais c'était déjà 2-0 avant les deux cartons rouges.
Ouais, mais
donc
le 5-0 est aussi accentué grâce à ça.
Oui, enfin, ok, ça, c'est le score final, mais après 20 minutes, c'était déjà 2-0, donc on peut pas parler d'esprit d'équipe et que ça ne fonctionne pas dans l'équipe et qu'il y a pas d'ambiance si après 17 minutes, parce que ça, c'est les vrais chiffres.
Mais ça, c'est pas d'ambiance après 17 minutes que tu dis que ça va performance.
Oui, mais tu dis que ça va pas dans l'équipe, donc si ça va.
Mais non, mais dans les moments importants, j'ai dit dans les moments importants, c'est là que l'esprit d'équipe de, par exemple, ton joueur est un peu moins bien, le soutenir et tout, et j'ai pas l'impression qu'il y a un soutien entre les joueurs, et ça, je trouve, c'est pas bon.
Ouais, je peux comprendre aussi le ouais. propos. Après, voilà, on sait qu'il y a eu une espèce de rumeur qui tournait autour de Charleroi avec le départ possible de Rick Demille du côté de la Gantoise. Moi, je sais qu'il a confié notamment à certains joueurs cadres qu'il a titularisé, il y en a un que t'as nommé tout à l'heure, qui réfléchissait à l'intérêt. Voilà, il y a aussi quelque chose de latent qu'il faut quand même pouvoir souligner dans cette émission.
Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord que c'est assez brouillon en dehors des terrains. Ça, c'est clairement le cas. Mm-hmm. Ça, je dis pas le contraire, mais purement qualitativement parlant, pardon, et de ce que j'ai vu les dernières semaines et les résultats, les chiffres, bah pour moi, je vois pas pourquoi Charleroi n'irait pas en play-off 1.
Le problème, c'est que pour aller en play-off 1, c'est un tout. Donc je suis d'accord avec toi, ils ont de la qualité, ils ont de très bons joueurs, on l'a déjà souligné assez ici, mais c'est un tout, et je pense que ce tout, ça peut leur faire défaut. Ça leur a fait souvent défaut, malheureusement, il manquait toujours un petit truc pour y aller, et j'ai l'impression
que on va la faire autrement. Thomas, pour toi, qu'est-ce que Charleroi a de plus que le Standard et de la Gantoise pour aller en Champions Playoff?
Bah, une qualité supérieure en termes de d'équipe, de joueurs. Je trouve que le noyau
individuellement
Que, ouais, bah, de toute façon on peut pas dire que le noyau du Standard individuellement est meilleur
là maintenant
que...
après le mercato.
Individuellement on peut pas meilleur, non.
Camara, il est incroyable, c'est peut-être un des meilleurs latéral gauche du pays.
Mais Petris, il est incroyable aussi. Il a pas joué deux semaines, ça y est, non, c'est un des meilleurs back droit, voire le meilleur back droit de Oui, mais attends, mais ça, enfin bref, on s'en fout. Pour moi, c'est l'un des meilleurs back droit de notre championnat. Il y a pas débat. Donc,
mais il est très fort, effectivement.
Ouais, et t'as un Zorgan qui est exceptionnel. T'as un Solich qui fait que marquer. Enfin, je vois pas où se situe le problème du côté de Charleroi purement en qualité. Enfin, quand on analyse, pardon, le côté individuel du joueur. Donc, non, pour moi, sur le plan individuel, je trouve que Charleroi a une meilleure équipe que Standard et la Gantoise.
Mais je trouve que la Gantoise a quand même un meilleur effectif. Voilà. Le Standard, peux comprendre, ça se discute, ton propos sur Petris et tout, mais sur les individualités, si Van Zer revient à son niveau, il n'y a même pas de discussion.
Individualité, ok, peut-être que la Gantoise est un petit peu supérieure que Charleroi, mais en termes d'équipe, en termes de tactique et le dispositif et comment ça tourne, enfin, tu vois, je trouve que le ballon va nettement,
Il y a de la confiance, ça joue, mais le football de Rick Domine est offensif.
Oui, voilà, il est nettement plus, alléchant que celui de la Gantoise et le Standard, c'est plus fluide, il y a plus de technique et il y a de la construction de jeu qu'on voit pas à la Gantoise ou au Standard, donc pour moi, je trouve que non, c'est une meilleure équipe.
Et puis, comme par hasard, un Charleroi qui va mieux, c'est un Isaac Mbenza qui marque.
Oui, voilà.
Ça aussi, ça, on peut faire
un. On a quand même beaucoup de qualité du côté de Charleroi, et je le dis depuis le début de saison, je vais pas changer d'avis par rapport à ça. Et on le voit, ils sont encore toujours en cours, enfin, dans la course au playoff 1.
Allez, c'est parti pour la deuxième petite phrase. Maintenant, on va s'intéresser à une ville, ou plutôt un club, dans lequel nous enregistrons aujourd'hui. Nous sommes à Anvers, évidemment. Le Royal Antwerp Football Club. Est-ce qu'ils ont définitivement relancé leur saison en battant le club avec une remontée épique? D'accord, pas d'accord. Xavier, pas d'accord. Thomas, il est d'accord difficilement. Et Quentin est d'accord également. Alors, je vais te donner la parole, Quentin. Est-ce que c'est parti, la remontada? On est dedans, là, pour l'Antwerp?
Ben, c'est bien, parce qu'en fait, l'Antwerp, ils ont joué comme l'Antwerp de jouer. C'est vraiment de l'envie, de la combativité. Clairement, au niveau de la qualité sur le terrain, c'était bien inférieur à celle du club de Bruges. Mais ils ont à un moment eu ce déclic où le supporter a fait un tout avec les joueurs. Van Aken a été complètement sorti de son match. Il était à deux doigts de prendre une deuxième jaune. Ils ont vraiment réussi à faire ça. Et c'est comme ça que l'Antwerp a toujours été impressionnant. C'est comme ça que l'Antwerp a eu son titre. C'est vraiment cet esprit. On est un peu moins fort au niveau des qualités. Ils ont des moins bonnes qualités que Bruges. Ils ont des moins bonnes qualités que Genk. Ils ont des moins bonnes qualités que Lyon. Mais l'Antwerp doit compenser avec cet esprit de combativité, cette grinta. C'est ce qu'ils ont fait preuve. Par contre, moi, je trouve le plus important, ça va être le match en semaine contre Anderlecht.
Le match en semaine Anderlecht, ouais. Effectivement.
Ce sera jeudi,
match retour, hein.
C'est ça, exactement. Ils ont perdu 2-1. À Anderlecht, ils reçoivent Anderlecht avec le soutien de leurs supporters. Un Anderlecht, c'est un peu aussi le trouble pour le moment. Donc, ils ont un coup à jouer et ils peuvent gagner une place en finale qui peut être intéressante. Mais c'est ce match-là qui va être très important pour eux.
Ouais, le Sporting d'Anderlecht, d'ailleurs, qui nous a complètement surpris lors du dernier jour du Mercato avec Elias Doua. Mais bon, on y reviendra plus tard. On sera évidemment totalement dans le match de la semaine qui sera dédié au Sporting d'Anderlecht contre la Gantoise. Thomas, par rapport à cette faculté, est-ce qu'aujourd'hui, l'Antwerp que toi, la semaine dernière, je m'en souviens, tu voyais peut-être faillir
non,
et même
c'était
en
lui,
difficulté.
C'était pas moi.
En Champions, toi, tu ne les voyais pas. C'est Quentin.
Ils sont tout proches. Justement, ils ont besoin de cette combativité parce qu'ils sont pas, ils sont proches. Hein.
Mais tu les voyais tout doucement en décrédescence.
Ils étaient en train de faire des performances qui étaient assez médiocres. Ici, honnêtement, Bruges, il doit clairement tuer le match. C'est Lamens qui les sauve. Il y a le face-à-face avec Tsolis. Il y a Nilsson qui rate une occasion dans le petit rectangle monstrueuse. Mmh. Donc honnêtement, Bruges peut clairement faire 0-3. Mais justement, moi, ce que je souligne, c'est cette grinta qui va leur permettre de sauver peut-être leurs fesses en play-off 1. Hein.
Thomas.
Bah moi, je suis d'accord par rapport au fait qu'ils ont sauvé leur saison avec ces 3 points-là. S'ils n'avaient pas pris les 3 points-là, je pense que ça aurait été... en effet, compliqué pour l'Antwerp. Je ne veux pas dire qu'ils ont relancé leur saison remontada, tout ça, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop peu de profondeur sur le banc. Ils iront en Champions Playoff, mais je pense qu'ils vont complètement en flop. Ils pourraient potentiellement même terminer sixième de ces Champions Playoff, parce que justement, il manque beaucoup trop d'alternatives sur le banc. Mais ces 3 points vont leur faire du bien. Ils vont plus ou moins sauver leur saison avec les playoffs.
Ouais, Xavier, on sent que depuis que Paul Gascoigne a complètement coupé les robinets, qu'on est obligé de faire des prêts sans option d'achat, comme ceux de Kadayong et de Mohamed Bayo, ça devient difficile du côté du RFC.
Ouais, ça devient difficile et moi j'ai envie. Mon pas d'accord, il pourrait se transformer en d'accord après le match de ce week-end, en fait. Parce que l'Antwerp, ils ont fait une belle remontée, ils ont montré de l'envie et autres dans ce match-ci. Ils ont fait le même scénario que l'année dernière à Brive, enfin, exactement pareil. Mais en soi, c'est que depuis début octobre, depuis le 6 octobre, ils ont vraiment enchaîné deux victoires consécutives. Alors ici, oui, ils ont gagné, c'est bien, ils ont pris trois points. Mais il faut qu'ils arrivent à enchaîner deux ou trois matchs consécutifs où ils sont constants. Donc si ils arrivent à faire un bon match en coupe, même la coupe, je veux bien même passer, mais s'ils arrivent à battre Anderlecht ce week-end, alors là, je pourrais peut-être te dire que leur saison est vraiment relancée. Mais ici, après seulement un match face à Bruges, qui a dépensé beaucoup d'énergie en semaine face à City, c'est dur de se dire qu'ils ont vraiment relancé leur saison. Mais oui, ça pourrait se transformer en d'accord dans très peu de temps. Ouais. Mais je reste un peu sur ma réserve actuellement.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que derrière votre écran, on peut éventuellement dire que le Royal Antwerp Football Club sera un arbitre pour les Champions Playoffs? Dites-le nous dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, tac, le like, c'est toujours très important. Et abonnez-vous, on compte sur vous, bien évidemment. C'est toujours important d'avoir vos retours. Et on est super, super heureux, évidemment, de les lire. On passe, messieurs, à la dernière phrase de ce d'accord, pas d'accord. Et justement, on revient sur le propos qu'on avait concernant le mercato. On va s'intéresser aux Canaries. Les Canaries, avec le trio Bertaccini, Lamkelze et Lapoussin, Saint-Tron ne sera jamais relégué en Challenger Pro League. Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec cette phrase? Xavier est d'accord, Thomas est d'accord, et évidemment, on est sur une unanimité parce que Quentin est également d'accord. Thomas, tu étais dithyrambique tout à l'heure concernant Saint-Tron, donc je vais te laisser y aller.
Tu as parlé de trio, moi je dirais plutôt Quintuor parce que on a quand même un Lapoussin à gauche. Tu peux mettre un Lamkelze, Bertaccini en pointe. Derrière, tu as un Brahimi qu'on n'a pas mentionné. Et à droite, tu as un Patrice. Et encore derrière ça, tu as un Ito qui est techniquement très très bon. Donc pour moi, ils ont une équipe très très forte. C'est même dommage de ne pas l'avoir eu en début de saison parce qu'ils auraient pu jouer un rôle majeur dans cette compétition. Mais en effet, je ne pense pas qu'ils vont être relégués. Ce serait quand même très très grave, surtout avec un très bon coach comme Mazou. Moi, je pense pas qu'ils vont, ils vont être relégués. Ce serait quand même très catastrophique pour eux.
En tout cas, la direction a complètement fait le travail pour ne pas l'être. Ça, c'est une évidence, Xavier.
Oui, clairement. Et puis après, quand tu regardes aussi un peu plus en profondeur leur calendrier, qu'ils ont, il reste 6 matchs, ils jouent le club de Bruges et les 5 autres adversaires, c'est des équipes qui sont 11, 12, 13, enfin, toutes les équipes du bas de classement. Et quand on voit le match qu'ils ont fait face à l'Union, il est inconcevable qu'ils ne vont pas prendre des points contre des concurrents directs. Et il y a tellement peu d'écart que pour moi, même dans le pire des cas, s'ils sont le premier des play-down, ils sauveront. Donc c'est impossible de les voir en D2 l'année prochaine.
Ils ont le calendrier le plus avantageux de toutes les équipes du bas de classement. Donc, a priori, ça devrait le faire.
Et la méthode Mazou, est-ce qu'elle va le faire du côté de Saint-Tron? Est-ce que tu es déjà satisfait de ce que tu vois pour le moment dans le chef du coach belgo-italien?
Ben, si tu as des joueurs comme ça, je pense que c'est un coach que tu dois avoir, c'est Mazou. Parce que franchement, bon courage, il va falloir les gérer. Franchement, courage à lui.
Ah, ça va être la foire de Liège. Hein, on est clairement la foire du midi, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça va être sympa.
Dans le vestiaire, ça va être quelque chose. Ouais. En dehors du vestiaire, ça va être quelque chose aussi, donc j'espère qu'il va être assez bon pour le recadrer. Lamkelze a fait une interview comme ça, pour dire comme quoi il avait déjà eu un retard à l'entraînement et que Mazou l'avait sanctionné. Je sais plus ce qu'il avait dû faire comme tâche, mais il avait dû faire une tâche où il a dû débarrasser la table et tout. Et il a dit j'ai accepté de le faire parce que c'est les règles et je suis arrivé en retard. Mais bon, il arrive déjà en retard. Ça avait commencé, il arrive déjà en retard. Donc, quand lui va arriver en retard, qu'il y en a qui vont arriver en rentrant de soirée ou autre, Mazou, il va devoir quand même serrer la vis, je pense.
Allez, le match de la semaine, tout de suite, vous l'attendiez bien évidemment. Le Sporting d'Anderlecht a été battu à la Gantoise. Défaite 1-0. Une défaite, effectivement, qui a subi énormément de discussions, énormément de critiques aussi hein, sur les réseaux sociaux concernant ce Sporting d'Anderlecht. On commence tout doucement à voir gris. Mais la vraie question et ma question dans ce match de la semaine, messieurs, c'est est-ce qu'on a vu les limites du Sporting d'Anderlecht contre la Gantoise dimanche, Thomas?
On a vu les limites de Hubert surtout. Je pense qu'on peut plus tourner.
On a vu les limites de Hubert.
Ouais, je pense de Hubert. Ouais, je pense qu'on peut tourner cette phrase dans cette direction-là. On a voulu donner la chance à un jeune entraîneur qui n'avait pas forcément d'expérience dans ce domaine-là. Et pour moi, c'est un échec complet parce qu'avec le noyau qu'ils ont aujourd'hui. Ça devrait pas arriver. Ils ont, pour moi, ils ont un noyau vraiment au-dessus de leur de leur place dans le classement, on va dire. Pour moi, ils doivent vraiment être dans le top 2 et malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc pour moi, c'est plutôt Hubert aujourd'hui qui a montré ses limites et je pense qu'il est temps d'agir.
Déjà ?
Parce qu'il est encore temps, il est encore temps de le faire.
Attends, donc tu es en train de me dire que toi, tu voudrais déjà mettre dehors David Hubert ?
Honnêtement, oui, parce que c'est pas quelqu'un qui est, enfin quand on voit les recrues etc., on va chercher des joueurs comme De Donker, Huerta au Mexique alors qu'il était enfin c'est une star là-bas et on prend un entraîneur du style Hubert qui n'a pas de statut, qui n'a pas de CV, qui n'a pas d'expérience. Je trouve que ça colle pas forcément à l'image d'Anderlecht. On a voulu essayer, on a tenté. C'était pas mauvais en soi parce que tu donnes la chance à un jeune Belge. Mais a priori aujourd'hui, faut faire le constat et le constat est que il n'est pas à la hauteur.
Ouais, on est en train de construire un projet, en tout cas sous la direction d'Olivier Renard, qui est un projet à long terme, hein, à l'image du dernier transfert, je le disais tout à l'heure, Elias Dao, 18 ans, 21%, non, 9% de minutes jouées en Ligue 2 avec Amiens, on ne sait pas ce qu'il vaut, personne ne l'a vu venir, personne ne l'avait annoncé, donc ça veut dire que vraiment personne n'attendait ça, alors qu'effectivement le Sporting d'Anderlecht s'était positionné sur des profils comme Mihailo Cvetović et qu'ils étaient très intéressés, ils n'ont jamais agi sur des dossiers qui coûtent cher, hein, c'est des dossiers... où Anderlecht aurait dû dépenser à peu près 3 millions d'euros plus bonus et ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont été sur une jeune pépite dont personne ne sait véritablement à l'heure actuelle ce qu'elle vaut, mis à part les dirigeants du Sporting. Ça aussi, quelque part, la gestion du club au niveau structurel, ça pose aussi des questions sur qu'est-ce qu'Anderlecht veut vraiment faire dans ce championnat cette saison.
Ouais, mais ce transfert, je le trouve plutôt logique parce que tu as déjà 3 attaquants et tu as qu'une place. Dolberg va revenir, on ne sait pas forcément quand. Parce qu'il y a
mi-février, je pense, plus ou moins.
Ouais, il n'y a pas trop d'infos à par rapport à ça, je trouve ça assez bizarre d'ailleurs. Mm-hmm. T'as un Vázquez, bon...
il reviendra mi-février, il y a une info claire.
Voilà, ok. Vázquez, bon, il a marqué très récemment plutôt un beau but, mais c'était plus de la chance qu'autre chose, je pense. Mais
toujours après, sympa avec Luis Vázquez dans cette émission.
Non, mais évidemment... Mais il a toujours dit c'est un bon attaquant.
Non, mais c'est vrai, pour moi, ça reste un bon attaquant. J'avais pas filmé ça. Pour moi, Vázquez, il a sa place en Anderlecht. Mais le but qu'il met... tu vois très bien qu'il a eu beaucoup de chance que enfin qu'il y a pas d'effet enfin bref pour moi c'est un peu de la chance et t'as Goto qui a fait des bonnes prestations donc je trouve que c'est logique d'aller chercher une jeune pépite dans des divisions inférieures pour le préparer avec les RSCA futurs et on a eu le même cas avec l'Antwerp il y a pas si longtemps que ça avec Ilinikela il venait aussi d'Amiens bon il avait un peu plus de stats un peu plus de minutes de jeu mais c'est un peu dans le même profil même style donc c'est intéressant à voir.
Dao qui intègre directement le groupe de l'équipe première attention donc il est pas obligatoire de le voir avec les RSCA futurs pour le moment il est véritablement considéré comme un joueur
ça,
qui sera
c'est de la communication ça
ouais mais en tout cas c'est le discours que le Sporting tiens, moi je te dis ce que le club dit. Peut-être toi tu penses que c'est faux. Ouais. Maintenant, moi je te dis ce que eux me disent. C'est uniquement ça. Après, voilà, tu peux interpréter ce que tu veux, évidemment.
Je pense que tu es d'accord avec moi sur ça.
On va passer maintenant. Quentin, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on a vu les limites du RSCA dans cette rencontre face à la Gantoise?
Il y a un problème, c'est que j'ai l'impression que Hubert il se cherche un peu. Donc il passe en 3 def. Puis il y a du 5 def. Ici, il retente un 4 def au début contre la Gantoise. Puis il y a la rouge et il change encore. Il cherche. Par contre, le problème, c'est que c'est pas du tout le moment qu'Anderlecht doit se chercher. Parce que c'est maintenant, tu vas arriver dans le sprint final. Si tu veux ramener un titre Anderlecht qu'on n'a plus connu depuis autant d'années, il est temps de se bouger, il est temps de trouver un 11. Et il y a un gros problème aussi, c'est le fait d'être sur 3 tableaux. Et ça va clairement jouer un mauvais tour Anderlecht. C'est qu'il y a encore les matchs de coupe. Il y a où ils sont pas qualifiés justement pour les 8e de finale. Ce qu'il aurait fait, on l'a entendu à l'interview de Sardella. Il a dit clairement, ça nous aurait fait du bien de passer 16e de finale. Ils ont un match de 16e de finale qui va être assez important. Ils vont avoir les matchs ici, un calendrier quand même pas simple ici pour la phase classique, pardon. Donc je trouve il y a un gros problème, c'est ça, c'est qu'ils changent beaucoup trop. Les joueurs, ils ont pas d'automatisme. Une fois ils jouent avec Huerta, ils jouent une fois avec De Greef, une fois avant c'était Amouzou, puis c'était Thorgan Hazard, et même on met Donker en défense, puis on le met au milieu de terrain. Ouah, c'est le brouillard, c'est le brouillard. Il a besoin de stabilité. Il a besoin de stabilité, il doit se dire, ben là, j'ai mon 11, mais je sais que je peux avoir ce backup-là, mais il doit avoir un 11 prédéfini. Et c'est ça le gros problème d'Anderlecht à l'heure actuelle.
Ouais, la semaine dernière, Xavier, on vantait le 3-4-3. Aujourd'hui, on se repose des questions. Est-ce qu'il y a une stabilité à aller trouver ailleurs, dans un autre système, avec une autre approche de jeu?
Ben, le problème, c'est que du côté d'Anderlecht, c'est que moi, je trouve, c'est qu'on a vu surtout les limites de l'effectif, parce qu'ils ont beaucoup de qualité. Mais le problème, il y a beaucoup trop, comme tu l'as dit, c'est un projet long terme. Il y a beaucoup trop de jeunes. Ils jouent sur 3 tableaux, comme Quentin l'a dit. Et donc, t'es obligé de faire tourner ton effectif. Et quand t'as que des jeunes qui sont pas forcément habitués à une fois jouer, une fois pas jouer et tout ça, c'est compliqué. Quand tu regardes le match contre Gand, Hubert, il fait jouer quand même une équipe fort jeune. T'avais seulement 5 joueurs qui ont plus de 100 matchs en pro. Du côté de Gand, t'en avais 10 sur 11 des titulaires. Et dans les grands matchs, dans les matchs importants, t'as besoin d'avoir des gens un peu plus entre guillemets vicieux comme Samoas, par exemple Mitrovic, qui te font gagner des matchs. Et quand tu joues que avec des jeunes, parce que le souci c'est que ils sont talentueux, mais t'as pas d'autre choix, ben les matchs importants, les matchs vraiment décisifs, tu vas peut-être les perdre. Alors tu aurais pu les gagner avec juste un joueur qui est peut-être un petit peu moins talentueux, mais un peu plus d'expérience. Et c'est ça, je pense, les limites de l'effectif du côté d'Anderlecht.
La raison pour laquelle aujourd'hui, le Sporting d'Anderlecht, un Sporting d'Anderlecht qui finit troisième au classement en play-off, c'est déjà une réussite. On est d'accord. Parce que là, de ce que je vous entends, je ne les vois ni aller devant Genk après les play-offs, ni aller devant le club de Bruges. Donc, pour moi, ça va se jouer entre Union Saint-Gilloise, Antwerp et Anderlecht, cette troisième place.
Bah pour moi, ils devraient, avec l'effectif qu'ils ont, ils devraient jouer le top 2, mais à ce jour, le classement me fait dire le contraire. Mais
ouais,
après,
Thomas est déconfit complètement quand il parle d'Anderlecht.
Moi, ça m'embête parce que je trouve que Hubert avait trouvé le bon système, mais comme il disait Quentin, il est déjà repassé à autre chose, il change, il n'y a pas de stabilité. Enfin, c'est dommage parce que moi, je trouve qu'il y a un vrai potentiel dans cette équipe, mais ça sort pas.
Mmh. La semaine prochaine, va falloir se réveiller. Effectivement, il y a ce match jeudi en Coupe de Belgique qui pourrait les faire un petit peu hausser le niveau. On verra. Ça semble être leur priorité. Donc, ça veut dire qu'ils pourraient ne pas se mettre la pression pour finir obligatoirement troisième et se dire on gagne la Coupe de Belgique.
Un trophée.
Et dans la foulée, non seulement on fait un trophée, mais en plus de ça, on se rapproche très très rapidement, beaucoup plus rapidement que si on est en play-off 1 de l'UEFA Europa League et de la qualification, bien évidemment. La patte de l'expert, maintenant, c'est avec le QTN SLN International. Il nous a préparé un tableau absolument incroyable. Si vous n'êtes pas sur YouTube et que vous êtes en podcast, on va essayer de vous le décrire. Quentin va vous le décrire. Et si vous êtes sur YouTube, on va évidemment vous le montrer. C'est parti.
Justement, je ne vais pas montrer le tableau parce que le tableau, ça va être un genre de petit jeu. On va se jouer un peu aux prédictions. Donc, d'accord. Vous aussi, dans les commentaires, vous pouvez jouer le jeu et nous dire, on va voir qui vous allez penser être en play-off 1. Donc, ça va être très rapide. On va faire de la 4e à la 8e place. Donc, Antwerp, 40 points, Anderlecht, Gand, Standard et Charleroi. On va faire les confrontations des 6 prochains matchs. Je vais juste vous demander votre prono à chaque fois sur chaque. Et on va voir avec votre prono si ce que vous avez dit est un peu juste ou pas. Et donc, voir si vous allez être là-dedans. Donc, Anderlecht, Antwerp, pour toi. Qui va match nul, un victorieux.
L'Antwerp va aller la chercher.
Antwerp va la chercher. Donc, 3 points pour Antwerp.
Anderlecht.
Anderlecht. Et toi, Xavier ?
L'Antwerp.
3 points également pour l'Antwerp pour Xavier.
L'Antwerp pour Xavier. OK. Donc, Malines, la Gantoise.
Malines, la Gantoise. Eh ben, je pense que Malines va aller prendre un point.
OK.
Ouais, match nul aussi.
Match nul. Donc, un point, un point.
Match nul également.
Allez, match nul également. Et pour le suivant, Westerlo Standard.
Oh. Westerlo Standard, le Standard va aller chercher un point également à Westerlo parce que cette équipe ne perdra jamais sous Ivan Leko, je pense.
Victoire de Westerlo.
Victoire de Westerlo.
Victoire du Standard.
Victoire du Standard, ok. Dernière pour la première journée, donc Berscott-Charleroi.
Berscott-Charleroi, Charleroi va aller gagner au Berscott.
Ouais, Charleroi.
Charleroi.
Ok. Deuxième journée. Antwerp-Courtrai.
Antwerp-Courtrai. Ce sera une victoire de l'Antwerp.
Victoire de l'Antwerp.
Ouais, Antwerp.
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 Antwerp. Ok. Charleroi-Anderlecht.
Charleroi-Anderlecht. Ce sera une victoire du Sporting d'Anderlecht.
Sporting d'Anderlecht.
Match nul.
Match nul.
Match nul.
Match nul. La Gantoise-Berscott.
La Gantoise contre le Berscott. La Gantoise va les gagner.
La Gantoise.
Match nul.
En fait, je me dis que ça va prendre vraiment beaucoup de temps.
Standard Genk. Standard Genk, ce sera pour le KRC Genk qui va aller gagner au Standard.
Genk.
Match nul.
Ah ouais, c'est vrai qu'à domicile, parfois à Sclessin, ça peut être.
C'est possible. Voilà. Bon, on va se dépêcher, les gars. Antwerp OHL.
Antwerp OHL, ce sera pour. Ce sera égalité. Un point.
Antwerp.
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 Antwerp. Ok. Anderlecht Union.
Anderlecht Union, ce sera égalité également. Un point.
Un point.
Anderlecht.
Anderlecht.
L'Union.
L'Union, ok. Genk la Gantoise.
Genk la Gantoise, ce sera une victoire de Genk.
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 Ok, pas mal. Bruges Standard.
Bruges.
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 Ok. Westerlo Charleroi.
Westerlo Charleroi, ce sera une victoire de Westerlo.
Victoire de Charleroi.
Match nul.
Match nul. Cercle Antwerp.
Cercle Antwerp. Je pense que le Cercle va aller faire quelque chose à domicile contre Antwerp. Victoire du Cercle.
Victoire du Cercle.
Match nul.
Match nul.
Victoire du Cercle.
Victoire du Cercle. Ok. Anderlecht Standard.
Ah, ça, ce sera évidemment Un match nul.
Un match nul.
On ne se mouille pas, on ne se mouille pas. Pas encore.
Match nul pour moi.
Anderlecht.
Bon, on y est là ou quoi?
Match nul. Parce que là, on va pas... Voilà, on va arrêter maintenant. Donc, comme ça, déjà, maintenant, si on regarde, ben, clairement, pour toi, Sacha, on resterait sur la même physionomie. Donc, Antwerp, Anderlecht et Gand.
OK.
Pour Thomas, on resterait exactement sur la même aussi physionomie. Donc, pas de Charleroi. Donc, ça serait Antwerp, Anderlecht et Gand. On le tient à soigner.
Pas de Charleroi. Attends, pas de Charleroi dans mon bazar.
Non, pas de Charleroi dans ton bazar pour le moment, avec tes pronos.
Parce que t'as mis trois problèmes de calcul, les gars.
Non, parce qu'ils ont 4 points, mais c'est égalité. Ils ont, tu leur as donné 7 points et t'as donné 3 points à la gantoise.
Ça c'est sûr.
Et pour Xavier, il avait raison, le standard serait devant la gantoise.
Eh ben quelle patte de l'expert.
Bah, bien,
mais... Incroyable. Signé de la part de Quentin.
Ça va être serré, donc ça peut se jouer vraiment à des détails.
Eh ben écoute, merci, c'était un petit point arithmétique. On espère que ça vous a pas trop ennuyé le moment des calculs. C'était
calcul.
Un pronom improvisé. On vous avoue que j'étais absolument pas on n'était pas prévenu du tout. Il nous a dit "Ouais, lance-moi sur la patte de l'expert, on va voir." Ben voilà. On a commencé à faire le bingo, on a jeté les croix.
Je pensais que ça allait être plus rapide que ça.
Il a dit avant l'émission, les gars, c'est un truc chill. Hein.
c'est un truc chill, le mec, il fait des QCM, en fait, c'est pas grave. Allez, on est parti maintenant pour le Football Time Award, les joueurs de la semaine, bien sûr, le classement général tout d'abord. Eh bien, on peut le dire, le leader, c'est un homme qu'on adore, c'est un joueur absolument fantastique, c'est Franjo Ivanovic, mon cher Thomas.
Exactement, il a pris le lead après ses prestations des dernières semaines, donc c'est logique qu'il soit premier en ce moment.
Voilà, et numéro 2, ce sera Bertaccini. Et puis pour la suite, comme d'habitude, on vous donnera rendez-vous sur X et sur les réseaux pour le bonus qu'on donnera au joueur de la semaine que nous avons désigné. C'est parti, on commence avec Xavier. Qui est ton joueur de la semaine?
Moi, j'ai pris le gardien de l'Antwerp, Lamens, tout simplement, parce que je trouve que ça fait déjà plusieurs fois qu'il sauve l'Antwerp. Je pense qu'il n'a pas encore eu de points dans le classement, alors qu'il fait quand même une super saison. Il a quand même 82% d'arrêts, donc ça veut dire qu'il fait quand même pas mal d'arrêts.
C'est énorme.
Ce week-end, je pense que c'est encore lui qui sauve l'Antwerp. L'Antwerp a quand même concédé 3,64 XG, ils encaissent que seulement un goal avec pas mal de ratés de Bruges. Mais honnêtement, je pense que vu sa prestation ce week-end, il méritait d'être mis en avant et de marquer un petit point.
C'est Nelamens qui est d'ores et déjà dans les radars de clubs anglais comme Manchester United et Arsenal. Il le regarde avec grande attention. Il est vraiment considéré comme le futur grand gardien en Belgique. C'est Nelamens, ça fait longtemps que l'Antwerp a mis le grappin dessus. Ils l'ont même, j'y dirais, propulsé en lieu et place de Jean Buté qui, à un moment donné, en a souffert sur ces 6 derniers mois. On a hâte de le voir réussir.
C'est Nelamens, ouais. Oui, clairement. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui il y a quelques années quand j'étais au club des Bruges. Il était en rotation avec Nick Shinton qui est actuellement au Beerschot. C'est un très bon gardien, j'ai vraiment toujours apprécié. Malheureusement, sa personnalité lui fait un peu défaut. C'est quelqu'un de très égocentrique, malheureusement.
Okay.
Désolé pour la petite remarque négative. Ouais. C'est pas vraiment quelqu'un qui a une belle personnalité, mais c'est un excellent gardien. Il fait du très bon taf, donc mérité. Je pense que tout le monde aurait pu le prendre aujourd'hui.
Ouais.
Donc c'est mérité.
Et puis d'un gardien à un autre, le joueur de la semaine de Thomas, c'est...
Aussi un gardien, Davy Roof, on l'a déjà mentionné plusieurs fois. Il a jamais pris le point bonus alors qu'il a déjà été sélectionné 3 fois, plus aujourd'hui ça fait 4. Donc j'espère que cette semaine, vous allez voter pour lui. 3 arrêts de classe mondiale, il a sauvé...
C'est la Starac ici, hein, votez
pour lui.
Ouais, non, donc j'ai pris Davy Roof parce qu'il a fait 3 arrêts de classe mondiale. Il a sauvé la Gantoise, surtout en fin de match sur la frappe de Vasquez. On retient aussi la belle frappe de Verscaren qui la touche, parce que s'il la touche pas, je pense qu'elle rentre, ça aurait été un magnifique coup franc de Verscaren. C'est un excellent gardien, pour moi il fait partie du top 3 de notre championnat, donc il mérite ce point.
Allez, maintenant on va passer à Quentin qui va parler de parfait Gagon.
J'allais dire, son match il était parfait, c'était Gagon, franchement incroyable, 2 passes décisives.
Ça peut être pas mal pour définir un joueur parfait, Gagon. Il a fait un match Gagon, quoi. Tu vois, genre, ouais. ce serait un super surnom.
Franchement, c'est lui qui apporte les 2 premiers goals. Même les 3 premiers goals. Il est dans la base des 3 premiers goals. Et, le goal des organes est beau. Mais ce qu'il fait, là, sur son côté, c'est vraiment très, très, très bon. Et il est en train de monter en puissance, je trouve. Donc, surtout qu'il y a beaucoup de concurrence. Et sur son côté gauche, j'ai eu l'occasion d'aller voir plusieurs fois au stade. C'est un genre de joueur pour lequel tu vas au stade.
Et c'est très, très, très technique, effectivement. Encore un très, très beaucoup, là, pour le coup, de la part du Sporting Charleroi. Ouais. Thomas n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe?
Encore un joueur qu'on peut mentionner dans l'effectif de Charleroi. Quand tu prends sur le plan individuel, c'est des excellents joueurs. Zorgan, Gagon,
Mbenza,
Petri. Il y a plein de bons joueurs dans Charleroi.
Allez, mon joueur de la semaine maintenant, eh bien tout simplement, c'est Jean-Thierry Lazaramani. Pourquoi ? Parce que Jean-Thierry Lazaramani, c'est un revanchard. C'est un mec qu'on n'a pas vraiment respecté du côté de l'Union Saint-Gilloise ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Un joueur qui a une très très grosse qualité, champion d'Afrique quand même avec la Côte d'Ivoire, et puis surtout quel but, absolument incroyable. Il est arrivé en véritable sauveur de cette équipe du Standard de Liège, qui sans lui, on peut dire la vérité, n'aurait absolument rien obtenu de ce déplacement du côté du Cercle de Bruges. Il a été déjà clutch, comme on dit, dans un match extrêmement important. Donc Jean-Thierry Lazaramani, t'es exceptionnel. Voilà. Je te fais plein de gros bisous, Lazare. Tu es évidemment tout le temps le bienvenu du côté du Football Time. Mais c'est fantastique ce que tu nous as donné. Et je pense que tu seras une clé pour que le Standard est bien et peut-être même du côté des play-offs. En tout cas, j'y crois. Lazaramani, il a quelque chose de particulier.
Très important, ça va être ce week-end de le voir titulaire à la place de Marco Bulat. Parce que Marco Bulat, c'est vraiment catastrophique. Et donc là, je pense que c'est l'élément déclencheur qui peut faire à l'écho, faire passer le petit step et le mettre titulaire parce qu'il va réellement apporter un gros plus par rapport à ce qu'apporte Bulat sur le terrain.
Mais je pense que Bulat, il joue juste pour sa qualité sur phase arrêtée, toi.
Ben, ouais, t'as Camara qui peut le faire. Et les phases arrêtées, ok, au début de saison, c'était bon, mais je vais au stade. Je peux te dire.
Ce week-end, tous ces corners étaient merveilleux. C'est juste que le souci, c'est que t'arrives pas à les mettre au fond.
Ce week-end, sur la tête de Zekeri, magnifique. Ouais. Mais par contre, le week-end dernier, au Standard, il y a beaucoup de corners. C'est même pas au premier poteau et c'est pas bien tiré. Et du coup, ça offre une contre-attaque à l'équipe adverse. Donc, tu peux mettre Camara, qui s'est sûrement bien tiré les corners aussi. Donc, moi, je trouve, il doit sortir du 11. Bulat doit sortir du 11.
Il aime aucun milieu de terrain du Standard. Il y a que Karamoko et Thierry Lazaramani.
Ça fait déjà deux.
Ouais, c'est fait deux.
Je parle de c'est de nouveau. Je parle de tous ceux qui avaient avant. Il y en a aucun qui l'aime bien. Donc
ils n'avaient pas le niveau pour si tu veux jouer les playoffs. Hein.
Après entre nous, Karamoko, Kouavita, Amani, c'est bon.
Exactement. C'est un mieux qu'il doit faire.
Kouavita, c'est un peu léger, même si il fait pas des mauvaises prestations.
C'est un bosseur. C'est un bosseur. Ce qu'on appelle un 6/10 en
Ligue. C'est pas à la hauteur de l'image du Standard. Pour moi, ça ne devrait jamais être un titulaire.
Et de toute façon, Aiden O'Neill sera de retour, donc on va voir comment Ivan Leko va utiliser Karamoko. Pour moi, il le sort pas de l'équipe. Il le sort pas de l'équipe. Il le met dans un autre rôle, dans un rôle de percussion, dans un vrai rôle de numéro 8.
Mais il aime bien monter, on l'a vu ici contre le Cercle, mais ce que j'adore avec ce joueur, il joue simple. Mm-hmm. Il se prend pas la tête. Des fois, hop, la petite passe, clac, il joue pas trop vers l'arrière, il joue vers l'avant. Donc, et puis il en impose avec son physique. Quand t'as un dégagement adverse, une contre-attaque adverse, il est là, il fait le tac, il a une carrure beaucoup plus imposante qu'un O'Neill. Et ça, je trouve très important. Et quand j'étais au stade contre Denner, on l'a vu, le nombre de duels de la tête qu'il a gagné, c'était important.
Ouais, la cellule du scouting du Standard qui, en France, en tout cas, a vraiment des beaux réseaux. Ils ont été trouvés encore une fois une pépite, tu le disais en début d'émission, on termine avec ça. Franchement, Karamoko, c'est très très bon. On a hâte de voir à quel point les autres recrues seront excellentes. Pour le moment, tout est en train d'aller. Hein. Les joueurs qui viennent d'être transférés, ils sont excellents. Il y a eu Karamoko ces dernières semaines, il y a maintenant Amani. Il n'y a rien à dire. Là, pour le moment, le mercato du Standard, il a été très, très bon également. On va voir un peu ce que Ivan Leko va en faire. On passe maintenant. Tu voulais dire quelque chose? On peut passer.
Profitez-en parce que dans 4 mois, ils sont partis.
Et oui, le club va être acheté bientôt. Quentin, le temps additionnel.
C'est ça, exactement. Donc, ce sera une séquence qui est disponible mercredi soir où je vais revenir sur les joueurs qui vont performer, en tout cas augmenter leur probabilité de performer ce week-end. On a pas mal de matchs assez intéressants. Attention quand même au club de Bruges qui joue contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, donc une possible rotation. Mais donc, je vous invite à aller voir l'émission pour voir plein de conseils. Il y a beaucoup de gardiens, il y a des défenseurs, des milieux, des attaquants. Il y a tout pour se faire plaisir sur les jeux de fantasy et pour voir également ceux qui vont potentiellement performer.
Et ces joueurs donc, vont donc forcément performer, tu l'as dit. Et ils vont être excellents. Et grâce évidemment aux conseils de Quentin, tout va très bien se passer pour vous et pour vos jeux. Si vous le souhaitez, évidemment, hein, toujours avec modération. C'est un ami à moi. Voilà la vanne exactement des années 50. J'adore ça pour terminer l'émission. Un petit peu de beaufrie, la beaufitune, hein, comme dirait Jérémy Detlo. Mais ça, évidemment, si vous connaissez l'humour, vous saurez qui c'est. Xavier, je te souhaite une excellente semaine. Je te dirai qui c'est après l'émission. C'est un humoriste français qui chante la beaufitude. Enfin bref.
C'est trop jeune pour ça, désolé.
On va terminer cette émission très rapidement, Thomas. Je vais te montrer ça sur YouTube. Quentin, je te remercie. Je suis complètement perdu. Merci beaucoup, Quentin.
Avec plaisir.
Merci Thomas. Et merci Xavier. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. N'oubliez jamais, le Football Time ne s'arrête jamais parce que le football belge ne s'arrête jamais. Ciao, ciao.